J'aimerais parler sur Géasi et Élisée. Dans 2 Rois, chapitre 5, et verset 19, il est écrit « Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même « Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit « Tout va-t-il bien ?» Il répondit « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. » Naaman dit « Consent à prendre deux talents. » Et il le pressa, et il serra deux talents d'argent dans deux sacs et donna deux habits de rechange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans sa maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit « Mais d'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté ton char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et le temps de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Nous poursuivons ce thème de la chair opposée à l'esprit que nous trouvons dans l'Écriture. Et on a parlé la semaine dernière de Saül qui s'est opposé à David. Mais il faut comprendre que derrière ces oppositions, derrière ces relations d'incompréhension et parfois même de conflit que cela peut susciter, eh bien, il y a le principe de la chair qui va toujours dans le sens de la mort et le principe de l'esprit qui nous enseigne à accomplir les voies de Dieu et à faire la volonté de Dieu. Or, sans l'esprit, c'est impossible de faire l'œuvre de Dieu. Sans l'esprit, il est impossible même de rendre un culte à Dieu. Et je dirais même que sans l'esprit, c'est même un fardeau que de vouloir, de devoir venir à l'église, de devoir prier, de devoir lire la Bible, parce qu'on le prend comme quelque chose qui est une obligation, comme quelque chose qui est un commandement lourd et pénible, et on ne le vit pas pleinement dans l'amour de Dieu et dans l'esprit, et donc ça va devenir même pesant. Paul explique « la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit ». Et cette pensée ressurgit ici avec Géasi, qui vit selon la chair, c'est un croyant, Géasi, c'est le serviteur d'Élisée. Et on voit Élisée en face, serviteur de Dieu, qui vit selon l'esprit. Et c'est les désirs de la chair qui vont pousser Géasi à pécher. Le péché, c'est quelque chose qui nous environne. C'est mentionné comme cela dans l'Épître aux Hébreux. Le péché nous environne si facilement. Nous sommes donc dans un monde de péché. Nous devons veiller sur notre voix, sur nos yeux, sur nos oreilles, sur ce que nous faisons, ce que nous entendons. Mais le péché est un mal corrosif. Je discutais il y a quelques années de cela avec un chrétien qui travaillait dans une centrale nucléaire. Et il m'a expliqué que ce qui est particulier avec la radioactivité, c'est que vous ne la voyez pas, elle n'a pas d'odeur, vous ne la sentez pas. Elle est inaudible, elle peut déjà vous avoir contaminé et vous ne vous en rendez pas compte. Le seul élément qu'ils avaient toujours sur eux pour travailler dans ces domaines où il y a des risques, c'est un compteur Geiger qui leur permet de distinguer s'il y a de la radioactivité ou pas. Donc ils sont dans l'obligation de l'avoir tout le temps avec eux et c'est leur seule référence parce que humainement, ils n'ont pas les moyens de le détecter. Mais avec ce compteur, ils ont les moyens de savoir s'il y a une contamination qui se met en place. Et c'est exactement cela, on peut prendre cette image pour le péché qui est en train de contaminer, de polluer l'atmosphère qui se répand parce que le monde est pécheur et tourné vers les choses qui sont loin de Dieu. Et si nous n'avons pas le Saint-Esprit, si nous n'avons pas cette connaissance de la parole, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes contaminés, que nous sommes en train de mourir, que nous sommes en train d'être rattachés par nos péchés à la mort éternelle et que nous allons être séparés de Dieu. C'est pourquoi c'est par l'Esprit, c'est quand on est né de nouveau, c'est quand on se repent. D'ailleurs, la première expérience que l'on fait quand on s'approche du Seigneur, Jésus dit que le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais être convaincu de péché, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est de réaliser que l'on est pécheur et séparé de Dieu. Et vous voyez, ça, naturellement, on ne peut pas le comprendre. Mais c'est l'Esprit qui ouvre notre intelligence et notre cœur pour le saisir par la foi. Parce que beaucoup de gens s'estiment, eh bien, comme les autres, on n'a pas fait mal, on n'a pas volé, on n'a pas tué, on n'est pas pécheur. Et donc, c'est par l'Esprit qu'on va réaliser que tous sont pécheurs, et moi y compris, et que j'ai besoin du salut que Christ m'apporte, car Jésus est mort à la croix pour effacer tous nos péchés. Alors, quelques éléments dans ce passage. Un premier point, peut-être, c'est la relation qu'ils ont chacun avec Dieu, que ce soit Géasi d'un côté, que ce soit Élisée de l'autre côté. On se rend compte qu'ils n'ont pas la même relation avec Dieu. Géasi, d'ailleurs, son nom est intéressant, car son nom signifie en hébreu « valet de la vision ».« Valet de la vision ». C'est donc un nom, on peut dire, prophétique, puisque dans la Bible, les noms sont attribués d'une manière significative. Ça veut dire que le plan de Dieu pour Géasi, c'était quelqu'un qui voit spirituellement, c'est quelqu'un qui avance dans les voies de Dieu, c'est quelqu'un qui devait, en tout cas, développer une vision spirituelle. Mais on se rend compte que ses yeux, au contraire, vont être pour lui une occasion de chute. Donc on peut dire qu'il y avait un appel sur sa vie, mais qui est spirituel, qui était de voir les choses selon le regard de Dieu, mais qu'il s'en est détourné, il s'est détourné de cette vocation spirituelle pour se tourner vers les choses d'en bas, parce que ses yeux vont être attirés justement par l'argent, par l'or, par les biens matériels que Naaman avait apportés, mais que Élisée avait laissé repartir. La Bible dit aussi dans ce passage que Géasi, c'est le serviteur d'Élisée. C'est-à-dire qu'il côtoie un homme de Dieu, donc il en reçoit une bonne influence, et ça c'est très bon. Il avait un modèle à suivre, on peut penser à Timothée qui avait pour modèle Paul, et c'est d'ailleurs dit dans l'Écriture, c'est Paul qui dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Autrement dit, en fréquentant un homme de Dieu comme Élisée, Géasi aurait pu aussi être un imitateur et devenir comme, comme Élisée était proche de Dieu et cherchait à plaire à Dieu et imiter Dieu, eh bien, Géasi pouvait très bien imiter son maître et faire comme lui et devenir lui aussi un homme de Dieu. En tout cas, c'était la volonté de Dieu pour la vie de Géasi. Ça, c'est la relation de Géasi avec Dieu qui est donc distante, qui est donc plus... Géasi a perdu la vision, on va dire, spirituelle qui était sur sa vie et il est plus attaché à la vision terrestre des choses. Et cela va créer comme une distance. D'où, après, son amour pour les choses de la terre. Et Élisée, lui, son nom signifie « Dieu est salut ». Et il va rester fidèle à la parole de Dieu. Il va rester un homme de Dieu attaché à la prière. Il va payer le prix, on le sait par différents extraits de sa vie, parce que ce n'est pas toujours facile d'obéir à Dieu. Il y a parfois bien des renoncements à faire. Et bien, nous savons que c'est pour notre bien. En tout cas, c'est quand il faut renoncer à quelque chose pour Dieu, bien, c'est un choix que nous devons faire. Et nous savons que c'est bon pour notre âme et que c'est bon pour notre vie. En tout cas, Élisée l'a fait. Une relation donc différente. Un deuxième point, ils ont des pensées différentes. On a lu tout à l'heure au verset 20. Voilà que Naaman est parti avec les biens, de l'or, de l'argent, et puis des tuniques, des vêtements. Et là, il se met à se dire en lui-même. Donc, il va avoir une pensée différente de celle de son maître. Il n'en parle à personne, il réfléchit, il analyse la situation. Mais voyez, tout à l'heure, je disais, il y a deux types de manières de faire. Élisée, c'est selon l'esprit, et Géasi, c'est selon la chair. Et il va raisonner, donc, selon la chair. C'est un raisonnement humain, c'est un raisonnement empreint de péché, mais qui révèle aussi ce qu'il y a dans le cœur de Géasi. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Alors Jésus le dit dans Marc chapitre 7, verset 21, « C'est du dedans, dit Jésus, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. » Et voilà qu'il y a des mauvaises pensées qui sont là, et il continue, et vous allez voir que la liste est longue, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. On peut se demander comment est-ce que c'est possible que dans un seul cœur, il y ait autant de mauvaises choses. Eh bien, parce que notre cœur est mauvais et il est tourné vers le mal, il est tortueux et il a besoin d'être régénéré, d'être transformé, d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir raisonner selon Dieu et penser selon Dieu. Parce que naturellement, nous allons penser comme Géasi. Naturellement, nous allons penser selon la chair. Nous allons faire des choix selon la chair qui vont être préjudiciables à notre vie même spirituelle. Ce seront des choix que nous allons regretter, mais nous n'avons pas pris le temps de vider de notre cœur toutes les mauvaises pensées, de demander pardon à Dieu pour toutes les mauvaises choses qui ont pu rentrer. Il y a toute une quantité que Jésus cite. Mais elle n'est pas exhaustive parce qu'on pourrait dire que c'est un puits sans fond. Le cœur qui n'est pas régénéré, le cœur qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, il va avoir un désir toujours de pécher, toujours davantage. Alors que voit-on dans le cœur de Géasi? Premièrement, je vois un manque de soumission à son maître. Géasi ne se soumet pas à son maître Élisée. Au contraire, il raisonne en disant « Mais mon maître, il a donné des directives. Qu'est-ce qu'avait dit Élisée ? Élisée avait dit, bien, à Naaman, tu peux repartir avec ton or, ton argent, et que la paix soit avec toi. » Et lui, il raisonne différemment. Il ne se soumet pas à la pensée de l'esprit, en fait. Parce que derrière la pensée d'Élisée, il y a la pensée de l'esprit. Il y a la pensée de la grâce. Il y a la pensée que cet homme, Naaman, qui était un Syrien, qui a été guéri, eh bien, Dieu lui a fait grâce. Et c'est une image que Dieu aime les hommes dans le monde entier, qu'il veut les bénir. Et c'est ce qu'Élisée a saisi. Il a laissé repartir en paix. Mais Géasi raisonne, lui, d'une manière tortueuse. Et il va se dire, mais mon maître est fou. Il a laissé un ennemi du peuple de Dieu venir. Dieu l'a guéri et il le laisse repartir avec cet argent. Nous pourrions profiter pour en récolter quelques biens. Et en fait, c'est pour lui-même qu'il voit son intérêt personnel. Je remarque que dans son discours, il utilise le nom de son maître pour toucher le cœur de Naaman. Il utilise le nom d'Élisée parce que Naaman et Élisée avaient fraternisé. Alors, par ce moyen-là, il a touché la corde sensible pour essayer de lui faire donner de l'argent. Mais frères et sœurs, nous ne devons pas mêler le nom de notre maître dans nos affaires. Parce que là, ce sont des affaires humaines, ce sont des choix terrestres. Et il est en train de mêler le nom de son maître. Mais nous avons un maître, c'est Dieu. Et nous devons apprendre à respecter les choses de Dieu et à ne pas mélanger l'œuvre de Dieu avec nos affaires personnelles qui sont autre chose. Et surtout ne pas utiliser le nom de Dieu en vain, comme c'est écrit dans un des 10 commandements, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Deuxième chose qu'il y a dans son cœur, il y a un manque de pardon. On a dit tout à l'heure qu'Élisée a fait grâce. C'était un ennemi de Dieu, il a été guéri, Élisée le renvoie comme cela, en lui disant de continuer à prier Dieu. Mais dans le cœur de Géasi, il y a plutôt le jugement, il y a plutôt la sanction. Il y a plutôt, c'est un ennemi du peuple de Dieu, il va falloir qu'il paye, il va falloir en profiter, il va falloir en tirer quelque chose. Voyez le regard qui n'est pas régénéré, le regard qui est selon la chair. C'est exactement ce qui est arrivé à Saul de Tarse, ce persécuteur de l'Église qui s'est converti. Bien, les premiers croyants le regardaient d'un œil suspicieux en disant « Mais s'est-il véritablement converti ?» Il n'avait pas cette confiance, il n'avait pas cette assurance, alors que Saul, qui était pourtant un persécuteur de l'Église, a été sauvé par grâce, il a été transformé par l'action puissante d'une rencontre avec Jésus-Christ, et il a été transformé. Lui, il aimait les chrétiens, il voulait les rencontrer. Il était transformé par l'œuvre de Dieu. Mais du côté des chrétiens, ils avaient encore ces craintes, ces peurs que Saul ne se soit pas véritablement converti. Alors, dans leur cœur, vous voyez, il y avait encore cette suspicion jusqu'à ce que les choses s'apaisent par Barnabas. Et puis, dans le cœur de Géasi, nous voyons aussi qu'il y a une apparence de justice, mais qui est fausse. C'est-à-dire qu'il dit « L'Éternel est vivant, je vais courir après lui ». Il a toujours une pensée religieuse, il a toujours le nom de l'Éternel à la bouche, mais en réalité, il utilise le nom de l'Éternel pour ses propres travers, pour ses propres fraudes. Et cela ne peut pas plaire à Dieu, cela est une forfaiture. Et puis, un quatrième élément qu'on voit dans son cœur, c'est qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a pas la parole de Dieu en lui. En fait, c'est quoi qui nous guide dans nos choix, dans nos décisions? C'est la parole de Dieu. Si elle n'est pas dans notre cœur, si nous ne la méditons pas, même si nous la lisons, mais que si nous ne la laissons pas rentrer dans notre cœur, eh bien nous allons faire les choix qui seront contraires à la pensée de Dieu. Mais plus on va lire la parole de Dieu, prier, recevoir la pensée, la comprendre selon l'Esprit, et plus nous allons être orientés dans nos choix, dans la bonne décision. Pourquoi, frères et sœurs, prions. Ne prenons pas des décisions trop hâtives, mais prenons le temps de prier et de chercher le conseil de Dieu, parce que les premiers choix ne sont pas toujours inspirés. Et que le Seigneur nous éclaire et nous aide. Il y a deux paroles qui existent. Il y a la parole de Dieu et il y a la parole du serpent. Quelquefois, elles se ressemblent un petit peu. Parce que la parole du serpent, si vous regardez dans le jardin d'Éden, le serpent a repris la parole de Dieu finalement. Il a repris des éléments. Dieu a-t-il réellement dit? Et il a commencé à parler comme si Dieu parlait et citer des choses que Dieu avait dites. Et c'est pour ça que nous, chrétiens, nous devons bien distinguer ce qui vient de Dieu, de sa parole, mais ce qui est de la dissimulation, ce qui est de l'inspiration, mais mauvaise. Vous voyez, quelqu'un comme Pierre, c'était un croyant, Pierre, c'était un disciple. Mais à un moment donné, quand Jésus va parler de la croix et va dire, bien, je vais être élevé de la terre et je vais mourir, mais je ressusciterai le troisième jour. Mais quand Jésus a parlé de sa mort, Pierre l'a repris. Mais quand il l'a repris, c'était une pensée tout à fait charnelle. Il lui a dit, cela ne t'arrivera jamais. Mais derrière cette pensée charnelle, Jésus a vu que c'était la parole du serpent. Et c'est pourquoi Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, cette parole n'est pas inspirée. Cette parole n'est pas de Dieu. Vous voyez, ça peut arriver même à un croyant qui croit bien faire, qui donne une parole, mais qui s'est plutôt laissé séduire par la parole du serpent, par la pensée qui n'est pas celle de Dieu, par une parole, on va dire, peut-être d'apparence même positive, parce que dire cela ne t'arrivera pas, je pense qu'il le dit par amour pour Jésus, il ne le dit pas pour lui faire du mal, il lui dit pour son bien en fait. Mais voyez que derrière, ce n'était pas le plan de Dieu. Et tout cela, nous ne pouvons pas le discerner, c'est impossible sans l'esprit. C'est pourquoi la chair est opposé à l'esprit, ils ne se comprennent pas, la chair ne comprend pas l'esprit, et si Pierre avait été à ce moment-là rempli du Saint-Esprit, ou en communion, pleine communion avec Dieu, eh bien certainement ces paroles ne seraient pas venues à son esprit, parce que ce n'étaient pas les paroles de Dieu. Donc nous avons beaucoup d'exemples dans la parole qui vont dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qui anime Géasi dans le fond? Eh bien vous avez la réponse dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. C'est l'amour de l'argent. 1 Timothée chapitre 6 verset 10, car l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Voilà où va le conduire son amour de l'argent. Ça va le conduire loin de Dieu, loin de la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, et là, Paul s'adresse donc à Timothée. Timothée, toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Là, on retrouve la position d'Élisée, tout à fait. Il n'a pas fait de compromis avec ces choses. Fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la patience, la douceur. Et cela, nous ne pouvons pas le vivre par la chair. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit et en communion avec Dieu. Géasi avait été tenté, peut-être il était attiré par l'argent, mais il aurait pu encore résister à la tentation si il avait cherché Dieu. Il aurait pu chasser ses pensées. Ah, cet argent, j'aimerais tellement l'avoir. Mais il aurait pu être pris dans sa conscience en disant, mais finalement, c'est pas bien ce que tu fais, Géasi, parce qu'il sait que c'est pas bien. Mais il a laissé les choses, il a laissé le péché faire son œuvre dans son cœur. Il n'a pas prié, il n'a pas lutté, il n'a pas résisté au tentateur, comme dit la parole. Résistez-lui avec une foi ferme, et il s'est retrouvé entraîné par son or, par cet argent, dans le péché. Il y a bien des années, il y a un homme qui avait découvert un filon d'or aux États-Unis. C'était à l'époque des chercheurs d'or. Et il avait trouvé beaucoup d'or. Et comme il revenait en bateau en Europe avec tout son or et qu'il ne voulait pas se le faire voler, il avait trouvé une solution pour le garder sur lui. Il avait cousu des petits sacs de cuir où il avait mis son or qu'il avait glissé dans sa veste et dans son pantalon. Et ainsi, il avait son or sur lui. On ne pouvait pas lui voler. Il était tranquille. Il était avec son or et il revenait heureux parce que maintenant, c'est la richesse. Mais il est arrivé une avarie sur le bateau. Il y a eu un feu qui s'est déclaré et on a jeté les canots à la mer. Et cet homme qui était avec son costume très pesant, il a voulu enjamber le canot et paf, il est tombé au fond de la mer. Il n'a pas pu rentrer sur le canot et il est mort. En fait, entraîné par ses richesses au fond de la mer. Voilà ce qui arrive, frères et sœurs, quand on est attaché aux richesses terrestres. Nous sommes attachés à des choses vaines qui vont nous précipiter vers la mort. Voilà ce à quoi Géasi est attaché. Il est attaché aux choses terrestres, il est attaché à de l'or, à de l'argent, mais ce sont des valeurs périssables, eh bien c'est en train de l'entraîner vers la perdition. Et il ne s'en rend pas compte, il est obnubilé, ses pensées sont fixées sur les choses périssables. Or, que dit la parole de Dieu par rapport à nos pensées? On a vu les pensées de Géasi. Les pensées de Géasi sont donc orientées vers ce qui est la séduction. Et les pensées d'Élisée sont orientées d'une autre manière. Élisée est attaché aux choses de Dieu. Dans Philippiens 4, voyez, Paul dit ceci, « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, voilà comment est Élisée, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » C'est ainsi, frères et sœurs, que nous pouvons avancer dans les choses de Dieu en ayant des pensées qui sont purifiées et renouvelées par le Saint-Esprit. On peut dire que Élisée vit à son époque déjà dans l'esprit de l'Évangile. Il a compris la grâce de Dieu. Il a compris que Dieu aime tous les hommes et qu'il a aimé ce général syrien Naaman et qu'il lui a fait grâce en le guérissant et il lui a donné quelques conseils pour qu'il continue à prier Dieu quand il sera retourné dans son pays. On peut dire que Élisée garde la parole de Dieu dans son cœur. Psaume 119, 11 dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Vous voyez la différence avec Géasi. Si nous avons serré la parole de Dieu dans notre cœur, quand vient la tentation, nous avons une force. Nous avons de quoi répondre. Nous avons des éléments qui vont être percutants, qui vont pouvoir résister au tentateur. Mais Géasi n'a pas serré la parole de Dieu contre son cœur et il a péché contre Dieu. Un troisième point que l'on voit, c'est Géasi se précipite pour le péché. Parce que le péché lui demande des efforts. La Bible dit, il courut après Naaman. Le péché va le pousser à se donner. C'est une course. C'est intéressant parce que, vous voyez, il y a comme une course pour le péché. Mais si on regarde les enseignements de la parole, la vie chrétienne, c'est une course aussi, mais une course pour le Seigneur. Et quand nous sommes chrétiens, nous courons, mais nous courons dans une autre direction. Nous courons pour servir Dieu, pour faire la volonté de Dieu et pour être actifs dans tout ce qui concerne son œuvre. Mais le péché, vous voyez, ça le rend créatif, imaginatif. Il va inventer une histoire, il va impliquer son maître en disant « Mon maître m'envoie vers toi, il y a des fils des prophètes qui sont arrivés par inadvertance, on n'a rien pour eux, n'aurais-tu pas ?» Alors il va juste demander un talent, il est humble. Il espère bien sûr obtenir plus qu'un talent, mais il demande peu. Enfin, c'est déjà pas mal un talent, ça représente 35 kilos d'argent. Et alors il demande un talent. Et général syrien Naaman va lui proposer plus, dit non, un talent, accepte de talent. Alors il feint de refuser, puis l'autre le presse, on a lu dans la parole, il le pressa d'accepter. Et finalement, il accepte, bien sûr, parce qu'il les voulait, les deux talents, et puis les vêtements qu'il va récupérer. Quand le processus du péché a commencé, eh bien, il va aller jusqu'au bout si nous ne nous repentons pas, si nous ne reconnaissons pas notre péché. En fait, c'est comme s'il était prisonnier de son péché. Parce que quand on est dans le péché, on perd la liberté. C'est un petit peu comme l'insecte qui est pris dans une toile d'araignée. L'insecte qui est pris dans une toile d'araignée, la toile d'araignée a des particularités d'adhérence qui fait que plus il se débat, en fait, plus il veut s'en sortir par lui-même, plus il s'embourbe dans la toile d'araignée jusqu'à être complètement lié. Il n'y a pas de solution pour un insecte qui est pris dans une toile d'araignée, sauf si quelqu'un vient de l'extérieur couper la toile et le libérer. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour être libéré du péché. Quand le processus du péché a commencé, on peut dire qu'il est dans sa toile, et là il va se débattre, il va essayer de... Mais non, c'est fait, le mal est fait, et il continue. Géasi n'est plus libre. Quand on est dans le péché, on a perdu notre liberté, et on continue sur une mauvaise voie. Alors, il va faire des gros efforts, il va prendre... les deux talents d'argent, il va les mettre dans sa maison. Vous savez, ça fait 70 kilos, finalement. Pour pêcher, il y va, il dépense de l'énergie, il y met tout son élan, tout son cœur. Mes frères et sœurs, nous devons nous appliquer à mettre tous nos efforts et tout notre cœur dans le service de Dieu, dans son œuvre et dans sa volonté. Mais en ce qui concerne le péché, eh bien, nous devons rompre avec ces choses. C'est enseignements, par exemple, de Pierre qui dit « Abstenez-vous de tout ce qui fait la guerre à votre âme ». C'est donc des positions à prendre. Rejetez le mal. Attachez-vous fermement au bien. Donc, pour s'attacher, c'est là que va être notre effort. C'est un signe que la chair a pris le dessus dans le cas de Géasi. Maintenant, je reviens à Élisée par rapport au péché. Élisée a reçu une révélation spirituelle. Et il a reçu par l'Esprit, il ne pouvait pas le savoir, mais par l'Esprit, il a reçu que Géasi a péché. Mais Géasi ne le sait pas, alors lui, il vient voir son maître comme si de rien n'était. Quelquefois, nous oublions que Dieu voit tout, Dieu entend tout. Et on continue comme si de rien n'était. Peut-être Géasi se dirait, mais personne ne le saura jamais. Peut-être que Dieu me fera grâce. Parce que quand on est dans le péché, on pense même que Dieu va couvrir les choses. Mais non. Dans un premier temps, c'est vrai que Géasi ne se passe rien, il continue à servir. La Bible dit qu'il s'est rendu, normalement, verset 25, à son maître, donc, comme si de rien n'était, mais la question du maître, d'où viens-tu ? D'où viens-tu ? Alors il va tenter de mentir. Ça, c'est un autre péché pour couvrir son péché de vol. Alors il va dire, mais je suis allé ni d'un côté, ni d'un autre. Et là, il est en train de s'enfoncer. En fait, je pense que ce « d'où viens-tu » c'est la main tendue pour la repentance. Moi, je le perçois comme ça. Exactement comme dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché, la première parole de Dieu, c'est « Où es-tu ? Où étais-tu ?» C'est comme si Dieu donne à Adam encore une possibilité de se repentir. Et ici, la possibilité est refusée, il ment, ton serviteur n'est allé ni à droite ni à gauche, mais à ce moment-là, le péché est dévoilé, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, si la chair nous fait voir les choses d'une manière naturelle, l'esprit nous fait voir les choses d'une manière spirituelle. Et Géasi étant proche de Dieu, il a une vision spirituelle qui lui fait voir que, eh bien, Géasi a péché et qu'il n'a pas confessé son péché. Élisée le voit, c'est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. » Comment est-ce possible ? C'est uniquement possible parce qu'Élisée vit une vie pure. Il vit proche de Dieu. Il a pris position par rapport aux mauvaises pensées. Il entend la voix de Dieu, il perçoit ce qui plaît à Dieu et il reçoit des révélations. On pourrait dire, c'est un don de connaissance qu'il a eu, un don spirituel de connaissance, car Dieu lui a révélé des choses cachées et il les a dévoilées. Il a eu le courage de le dire. À ce moment-là, Géasi a la bouche fermée et le dernier point, c'est la sanction de Dieu. La sanction de Dieu qui tombe, c'est-à-dire que la lèpre qui avait affecté Naaman va être placée maintenant sur Géasi. Autrement dit, Géasi a voulu profiter des bienfaits de Naaman, mais Dieu avait décidé de le laisser partir. Eh bien, il va profiter, non pas des bienfaits, mais il va être sous l'emprise de la maladie qu'avait Naaman, la lèpre. La lèpre qui était une maladie terrible, une maladie qui le portait vers la mort. Pourquoi ? Parce que le péché engendre toujours des péchés. Alors pour nous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ne soyons pas comme Géasi, frères et sœurs, mais soyons comme Élisée. Et si nous avons péché, nous savons qu'il y a un moyen de revenir à Dieu et de confesser nos péchés. Il est toujours temps de demander pardon. C'est pourquoi Jésus a versé son sang à la croix, c'est pour effacer nos péchés. En fait, l'œuvre de la croix, Jésus nous rend réellement libres. 1 Jean 1, 8 dit... Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. C'est un petit peu le cas de Géasi qui ne reconnaît pas son péché. Eh bien, il se séduit lui-même et il s'égare et il résiste à la repentance. Mais si nous confessons nos péchés, dit Jean, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. En conclusion, on a vu ici deux croyants qui ont deux attitudes radicalement différentes. On a Géasi d'un côté, qui vit selon la chair, qui avance selon ce que le monde propose, qui recherche les choses qui peuvent lui faire plaisir, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Il va vivre prisonnier de ses convoitises, et la conséquence pour Géasi, bien, c'est une vie infructueuse. On va dire que c'est une vie de croyant, mais malheureux. Il ne vit pas dans la vie de Dieu, ou pour nous, ça serait, il ne vit pas vraiment en Christ. Il est malheureux, il est prisonnier, en fait, d'un système religieux qui le contraint à faire des observations, mais sa relation avec Dieu est cassée. Il est possible de se repentir, il est possible de revenir. Élisée représente l'homme qui vit selon l'esprit. Un homme attaché aux choses d'en haut. Il s'entretient des bonnes pensées de la parole de Dieu. Il résiste fermement à la tentation de la séduction des richesses et des choses terrestres, mais il est attaché à la vraie parole. Et Dieu va lui donner des révélations divines, et on voit qu'Élisée a été un prophète puissamment utilisé par Dieu. On va prier quelques instants. Demander au Seigneur sa grâce. Merci encore pour ta parole. Croyons que tu es là pour pardonner. Mais nous croyons que tu es là pour relever et nous croyons que tu as toujours, Seigneur, une main tendue vers celui qui a péché. Parce que, Seigneur, tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux sa repentance et qu'il soit sauvé. Et nous te remercions pour cette œuvre puissante de la croix où ton sang précieux a effacé nos péchés. Nous le réalisons par grâce. Seigneur, nous voulons nous maintenir dans la position, comme Élisée, de la pensée de l'Esprit et ne pas nous laisser entraîner par les choses charnelles, terrestres, humaines. Mais, Seigneur, nous tourner vers les choses d'en haut et nous savons que la croix, Seigneur, c'est le moyen de pardon. Merci pour ton sang, merci pour la croix et que ta bénédiction nous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Amen.